Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les Israéliens étaient appelés aux urnes cette semaine pour la quatrième élection législative en 2 ans. Le Premier ministre sortant jouait sa survie politique dans ce scrutin qui s'est tenu vaille que vaille en pleine pandémie et dans un climat de très forte polarisation entre les pro et anti Netanyahou. L'audience du 5 avril sera le premier épisode d'un procès pour corruption visant le Premier ministre israélien et qui pourrait durer 18 mois. En attendant, Benjamin Netanyahou peut avancer le récit d'une droite dominante qu'il espère unifier. Son parti, le Likoud, termine affaibli mais en tête. Le Parlement issu des urnes sera le plus marqué par la droite idéologique de l'histoire récente d'Israël. Regard avec nos invités par téléphone, Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, co-directeur avec Bertrand Badie de l'État du Monde, dont le dernier numéro, État du Monde 2021, était consacré au Moyen-Orient et au monde, aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Alain Diekhoff, directeur du CERI et directeur de recherche au CNRS et auteur du conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Jean-Paul Chagnolot, professeur des universités et président de l'IREMO, auteur de Israël-Palestine, la défaite du vainqueur aux éditions Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
Cette élection a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré. Pôle position, je le disais en introduction, pour le Likoud, le parti du Premier ministre, mais Benjamin Netanyahou va devoir s'atteler à de complexes et acrobatiques jeux d'alliance pour espérer se maintenir au pouvoir. Est-ce que l'élection modifie certains équilibres, et si oui, lequel au Parlement, Alain Diekhoff?
Disons que fondamentalement, non. On est plutôt assez largement dans une continuité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Benjamin Netanyahou n'a pas gagné le pari qui était le sien, c'est-à-dire de vraiment avoir les mains franches pour pouvoir constituer une coalition, mais il ne l'a pas non plus perdu. Mmh. Donc on est un peu dans un entre-deux. Et évidemment, la tâche va être très très compliquée pour lui dans le deuxième tour, si je puis dire, c'est-à-dire la constitution de la coalition. Cela dit, il y a quand même peut-être 2 enseignements, parce que il y avait quand même des particularités dans cette élection. Le premier enseignement, c'est que la dissidence du Likoud de Gideon Saar n'est pas allée très loin. Les électeurs de droite sont restés quand même grosso modo quand même très fidèles au Likoud, et Saar n'est pas parvenu à attirer beaucoup d'électeurs du Likoud autour de son nouveau parti Nouvel Espoir. Le second enseignement concerne, alors là, pour le coup, les formations qui sont le plus à droite, à l'extrême droite, en particulier le groupe qui s'appelle les sionistes religieux, qui est un conglomérat de différents petits groupuscules d'extrême droite, dont une formation qui s'appelle la force juive et qui est clairement une formation kahaniste, hein, donc héritière de ce rabbin new-yorkais qui avait fait son alia en Israël il y a une vingtaine d'années, et qui est clairement un parti raciste et anti-arabe, qui avait été interdit, mais qui, en coalition, va quand même se retrouver finalement à la Knesset.
Je suis d'accord avec Alain.
Dominique Vidal.
Je dirais quand même de nous nuancer. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 3 leçons du scrutin de mardi. Le premier, c'est l'accentuation de la droitisation du paysage politique. Mmh. Parce que si l'on prend tous les partis de droite, d'extrême droite, ultra-orthodoxe, y compris Lieberman, même s'il il était ailleurs, même si Gideon Saar était dans un autre jeu, mais au total, ils font 72 députés, c'est-à-dire les 2/3 des sièges de la Knesset. Et dans cette droitisation, il y a ce que vient de dire Alain, je n'y insiste pas, mais c'est absolument capital, les héritiers du parti fasciste et raciste de Merkahan, interdit par la Knesset en 1984, ses héritiers entrent en force avec 6 sièges et deviennent une des clés pour Netanyahou s'il espère encore former un gouvernement. Deuxième leçon, c'est le très mauvais score des gauches, qu'elles soient juives ou arabes. Alors les gauches juives s'en sont sorties au sens où, contrairement à certains sondages, le Meretz s'est entré à la Knesset, on redoutait qu'il n'y entre pas, les travaillistes ont 7 sièges, mais quand on fait le total des gauches juives et arabes, on n'a que 18 sièges. c'est-à-dire 15% des députés à la Knesset. Et dans cette déroute, nouvelle déroute, il y a un perdant, c'est la liste unie qui, désunie, tombe de 15 à 6 sièges. Alors que les islamistes, je dirais volontiers achetés par Netanyahou, obtiennent 5 sièges. Et dernier point, et je m'arrête là, le centre recule nettement parce que Carole Lavanne, le parti de Benny Gantz, paye le prix de la trahison de celui-ci au printemps dernier. Et Yesh Atid plus les restes de Carole Lavanne ne font qu'au total 25 sièges, soit 20% de la Knesset. Donc globalement, c'est une nette droitisation dans des conditions inédites pour l'État d'Israël, d'autant, je le répète, que les héritiers de Kahana entrent en force à la Knesset.
Alors Jean-Paul Chagnolot, droitisation finalement qui se confirme de scrutin en scrutin.
Oui, moi je voudrais, avant de répondre à votre question, juste pour que vos auditeurs aient une vue claire de ce pulse un peu complexe que sont les résultats. Si on regarde les chiffres, et justement pour ne pas se perdre dans les chiffres, nous avons 12 formations qui sont entrées à la Knesset, et sur les 12, il y en a 10 qui sont autour de 7 sièges. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, 12 autour de 7, c'est-à-dire un peu plus, un peu moins. Et 7 sièges, ça représente environ 6,5% des suffrages. Ça veut dire que nous sommes dans un système politique totalement éclaté. Alors bien sûr, c'est pas nouveau, mais ça s'est encore accentué. Si on compare avec les dernières élections, c'était moins chaotique et moins fragmenté que cela. Donc c'est vraiment ça. Donc on est vraiment dans un monde politique où chacun, quand on parle de parti, c'est toujours lié à un homme ou une femme. Eh bien, c'est vraiment l'idée tactique. Comment allons-nous réussir à prendre position de manière forte, et comment va-t-on réussir à influer sur la formation du gouvernement? Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Maintenant, sur les enseignements, bon, je rejoins ce qui a été dit et je vais être très, très bref. C'est vrai que moi, je dirais que la gauche, le Parti travailliste et Meretz, finalement, tiennent plus qu'on ne le pensait. C'est-à-dire qu'on est toujours à 11 sièges cumulés. Ils résistent alors qu'on croyait, là encore, comme dans les précédentes élections, qu'ils allaient disparaître, qu'ils allaient passer en dessous de ce fameux seuil des 3 à 25%. Et puis c'est vrai que les Arabes, dans cette affaire, ont perdu. Ils passent de 15 sièges à 6, mais parce que les islamistes ont joué leur propre carte. Et c'est pas fini. Je pense que Mansour Abbas, le leader de cette liste, va sûrement jouer sa carte. Et jusqu'où, je lisais encore ce matin dans Haaretz les scénarios possibles, il est capable de tout et de son contraire, et pas lui simplement. Donc on est vraiment dans cette situation qui est tout à fait fragmentée, où tout est possible. Quand vous regardez la presse israélienne d'hier et d'aujourd'hui, ils font des scénarios. Et ces scénarios, en fait, il y en a 5, 6, 7, 10, parce que ça tient toujours à des politiques assez tacticiennes, avec évidemment, je le souligne aussi parce que c'est très important, l'entrée des descendants, si j'ose dire, des héritiers de Meir Kahane. Dans les années 80, un parti comme ça était interdit, carrément interdit en Israël, parce qu'il était raciste. Et c'est, je trouve, très symboliquement l'évolution, en résumé, du spectre politique israélien. Ce qui était absolument impensable à cette époque, aujourd'hui, est tout à fait accepté. On se souvient que certains députés à la Knesset dans les années 80 partaient quand il y avait des gens comme ça à la Knesset qui s'exprimaient. Ils quittaient la salle. Aujourd'hui, ils risquent de participer au gouvernement et même peut-être d'avoir un poste important. Hein. Donc on est vraiment dans une situation à la fois chaotique à cause de cette fragmentation et une incontestable accentuation de la dérive vers la droite.
Une phrase peut-être, Jean-Paul, Dominique, je suis d'accord, Vidal. Mais sur les résultats de la gauche, on peut évidemment les comparer aux sondages qui laissaient croire que Meretz n'aurait pas les 3,25% nécessaires pour être élu. Donc de ce point de vue, c'est plutôt rassurant. Je comprends les dirigeants du Meretz. Mais leur total de 18 sièges, j'y inclus la gauche arabe, c'est un total ridicule par rapport à l'influence qu'ont eu les gauches dans le Yishuv et ensuite dans l'État d'Israël depuis les années 20. On a eu une domination très nette, une majorité même absolue à certains scrutins de la gauche. Et elle est réduite, je le répète, à 15% des sièges à la Knesset. Donc on est vraiment sur la longue durée dans une droitisation marquée et dans une marginalisation des gauches. Donc c'est ça, à mon avis, l'essentiel. Au-delà de la fragmentation et des jeux politiciens, on imagine bien la difficulté que peut être pour Netanyahou l'idée de former un gouvernement avec d'un côté les héritiers de Mère Kahan, ceux que le rabbin Yeshayahu Leibovitz qualifiait de judéo-nazis, et de l'autre côté les islamistes. Ça fait quand même une drôle de salade.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, deux choses par rapport... Alors, Jean-Paul Chagnolo...
Non, juste avant, on ne va pas insister là-dessus, mais juste un chiffre là aussi. En 1992, c'est-à-dire au moment où Rabin gagne les élections, Parti travailliste plus Meretz égale 56 sièges sur 60...
Voilà.
Enfin, voilà, 56. Aujourd'hui, Parti travailliste Meretz, c'est 11. Mais je maintiens l'idée qu'on pensait qu'ils allaient disparaître. Les 11, ils les avaient aussi en avril 2019. Ils étaient à 10. Et je distingue bien les... Bon, voilà, donc, mais c'est vrai, bien sûr, que la gauche a disparu. Mmh. Et le Parti socialiste français se porte mieux que la gauche israélienne.
Hein. Alors, justement, puisque... on va rester sur la question de la gauche. Je voulais, après ça, qu'on revienne sur peut-être le mode de scrutin pour l'élection des membres de la Knesset. Mais donc, la gauche, c'est l'assassinat de Yitzhak Rabin, élu en 92, assassiné en 95, qui a fait traverser à la gauche israélienne une crise profonde. En quelques mots, quelles en sont les raisons, Alain Descoffes?
Alors, moi, je relativiserais l'impact de l'assassinat de Rabin. Symboliquement, évidemment, ça a été quelque chose d'important. Ça a été un traumatisme pour la société israélienne. Tout ça est évident. Mais je crois que il faut comprendre ces résultats qui, encore une fois, s'inscrivent dans une dynamique de long terme. Je rappellerai d'abord, pour commencer, que depuis 2001, il n'y a pas eu de premier ministre qui venait de la gauche ou du centre-gauche. Il y a eu Ariel Sharon, il y a eu Ehud Olmert et il y a eu, depuis 2009, Benjamin Netanyahou. Ça n'est pas le fait du hasard. C'est le résultat de dynamiques profondes à l'intérieur de la société israélienne juive. Donc 80% des citoyens israéliens, puisque les 20 autres % sont des citoyens arabes. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 80%? Bah, il y a eu trois phénomènes très clairs et qui vont tous dans le même sens, qui sociologiquement sont des facteurs qui conduisent à cette domination absolument évidente de la droite depuis maintenant, oui, je crois qu'on peut le dire, une quinzaine d'années. C'est d'une part la croissance de la population religieuse, qu'elle soit sioniste religieuse ou qu'elle soit ultra-orthodoxe. Or, cet électorat, il est à droite, clairement, il vote soit pour le Likoud, soit pour les partis sionistes religieux, soit évidemment pour les partis ultra-orthodoxes, ça c'est la première composante. La deuxième composante, qui recoupe partiellement la première, c'est les classes populaires séfarades, qui votent Likoud traditionnellement par identité, c'est-à-dire que même s'ils connaissent une ascension sociale, si les enfants des électeurs de 1977 qui ont pu voter pour Begin à l'époque ont connu une ascension sociale, ils vont continuer à voter pour le Likoud. C'est une question d'identité, c'est pas une question de choix politique. Même si leur situation économique s'accroît, ils continuent à voter Likoud. Donc c'est une fidélité, voilà, on peut pas en sortir. Troisième chose, c'est l'électorat des Juifs venant de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique. C'est un électorat qui, lui, n'est pas religieux, qui est laïque, mais qui est nationaliste, et qui vote pour des formations qui sont soit le Likoud, soit en effet, pour l'essentiel, le parti russophone de d'Avigdor Lieberman, qui certes se pose en opposition à Netanyahou, mais cette opposition n'a rien à voir sur le fond. C'est une opposition personnelle. C'est-à-dire que dans le fond, je dirais que la droite aujourd'hui en Israël est tellement en situation de presque de domination qu'elle peut se permettre le luxe d'avoir des querelles intestines entre Netanyahou et Lieberman, entre Netanyahou et Naftali Bennett, entre Netanyahou et Gideon Saar. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui les sépare sur le fond. Mais je dirais, ils peuvent en effet se permettre de se quereller parce que dans le fond, leur domination, quelque part, elle est pour le moment assurée. Donc voilà, je crois que cet élément de en profondeur est vraiment indispensable.
Alors, quand on parle de polarisation de la société israélienne, finalement, de quoi parle-t-on exactement, Jean-Paul Chagnolo ou Dominique Vidal?
Moi, je voudrais revenir juste sur cette idée-là de la droitisation, ce que vient de dire Alain Dikoff, oui. C'est que si on prend un peu plus de recul, on a en fait trois périodes dans la vie politique israélienne depuis l'indépendance, entre 48 et 77, pardon, c'était le Parti travailliste. Entre 77 et 2001, c'était une alternance. Et à partir de 2001, c'est tout ce que vient de dire Alain Dikoff. Mais j'ajouterais quand même un point, c'est que s'il y a ces facteurs qui favorisent la droite, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des facteurs qui ont fait s'écrouler la gauche. Et ça aussi, c'est important, parce que regardons le Parti travailliste aujourd'hui, j'ai compté, on doit être à 9 ou 10 leaders depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça change tout le temps, les
pas
leaders.
Pas de personnalité suffisamment au-dessus
ou en tout
du
cas,
groupe.
Pour... Ou en tout cas, ils tiennent pas. Je veux dire, ça, c'est très symptomatique. Ils ont ni programme, ils ont perdu leur base sociale et ils ont plus de leaders. Donc c'est aussi un effondrement. Et moi, je lirais ça. Alors là, c'est juste une hypothèse de discussion. C'est que ce qui s'est passé dans les années d'Oslo, avec la seconde intifada.
Les années 90.
C'est-à-dire les années 90, effectivement. Et ce qui s'est passé pendant cette seconde intifada, je crois que ça a provoqué une profonde fracture. Et je pense que c'est un facteur qu'il faut prendre aussi en compte. Parce que le camp de la paix disparaît, est englouti à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a complètement oublié le débat qui fut celui des années 90.
Dominique Vidal.
Je crois, Marie-France, si vous me permettez, on a tort, je ne parle pas de ce que viennent de dire Jean-Paul et Alain, évidemment, mais en général, on a tort dans les commentaires d'insister sur la spécificité, parce que dans ce dont nous parlons, il y a une leçon générale. C'est quand il n'y a pas d'alternative, eh bien, les populations en trouvent une. Et si elle n'y en a pas à gauche, ils la trouvent à droite. Et c'est symptomatique que la bataille soit, en fait, dans cette élection-là, une bataille, comme l'a dit Alain, à l'intérieur de la droite. Mmh. Entre Netanyahou et ses deux successeurs présumés ou potentiels, ou trois, si on compte Lieberman, Saar, Bennett, Lieberman, Bennett étant évidemment de plus en pointe. Au-delà, si vous voulez, de ce qui est spécifique à Israël, on est dans une absence d'alternative qui explique la droitisation. Deuxième remarque, on a tort, je crois aussi, souvent, d'insister uniquement sur l'absence d'alternative au niveau de ce qui est l'espoir de paix avec les Palestiniens, avec le monde arabe. C'est évidemment capital. Et il est absolument symptomatique que dans cette campagne électorale, il n'a absolument pas été question des Palestiniens. Sauf le jour où Nitzan Horowitz, le responsable du Meretz, a eu le courage, il faut le dire, d'approuver la décision de la Cour pénale internationale d'organiser cette enquête sur les crimes de guerre d'Israël dans les territoires occupés.
On y reviendra.
C'est le seul où il y a un débat, évidemment, un débat qui était en forme de chasse aux sorcières contre Nitzan Horowitz, qui avait eu l'audace de dire cela. Mais il y a un autre élément, et je crois qu'il faut y insister, c'est qu'Israël est à la fois une start-up nation avec tous les succès qu'on y connaît sur le plan économique, mais aussi le roi du monde occidental en matière d'inégalité et de pauvreté. Regardez les statistiques de l'OCDE, Israël arrive en tête en matière de pauvreté et d'inégalité. Or, là aussi, la gauche n'a pas été capable de formuler et de proposer une alternative. D'une certaine manière, on est dans cette situation qui est presque d'ailleurs la situation française, où le peuple vote à droite ou à l'extrême droite, et où ce sont les catégories intellectuelles, les catégories de la petite, la moyenne bourgeoisie, qui votent pour la gauche. Donc, cette situation-là, ce renforcement, est évidemment le deuxième pied qui manque à la gauche. Il manque un pied d'horizon de paix avec les Palestiniens et il manque un pied d'alternative économique et sociale. Ce sont ces deux facteurs, ces deux piliers qui manquent à la gauche. Pas seulement le pilier de l'alternative de paix avec les Palestiniens, mais aussi l'alternative à cette politique de pauvreté et d'inégalité qui fait souffrir non seulement les Arabes, évidemment, mais aussi toute une série de catégories de Juifs orientaux. Et j'en profite, c'est ma dernière phrase, pour dire que depuis les années 30, la question orientale est une question majeure à l'intérieur de la société juive, du Yishuv comme d'Israël. Les orientaux ont le sentiment d'avoir été sacrifiés par la direction juive ashkénaze, celle du Yishuv et celle d'Israël jusqu'à 77, et qui est restée d'ailleurs, sur l'autel de la nécessité d'avoir une main-d'œuvre à bas prix. Et la victoire de Begin en 1977 et celle de Netanyahou, s'il l'emportait finalement, ce serait encore et toujours la victoire de la revanche des Orientaux sur l'élite ashkénaze.
Géopolitique, on vous retrouve, Dominique Vidal, avec Jean-Paul Chien-Miollot et Alain Diekhoff après le journal. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à...
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur Israël, nous retrouvons nos invités par téléphone. Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, co-directeur avec Bertrand Badie de l'État du Monde, dont le dernier numéro, l'édition 2021, a pour titre Le Moyen-Orient et le Monde aux éditions La Découverte. Alain Diekhoff, directeur du CERI et directeur de recherche au CNRS, auteur de Le Conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin, et Jean-Paul Chagnolot, professeur des universités, président de l'IREMO et auteur de Israël-Palestine, la défaite du vainqueur aux éditions Actes Sud. On a évoqué dans la première partie de l'émission, bien sûr, cette élection législative qui s'est tenue en début de semaine en Israël, avec un gouvernement qui va devoir se constituer et moyennant beaucoup de tractations pour Benjamin Netanyahou. L'absence totale de la question du conflit israélo-palestinien dans la campagne qui s'est déroulée. Une question pour replacer les choses en situation, pourquoi cette élection devait-elle se tenir vaille que vaille en pleine pandémie? Et à quelques jours, c'est peut-être l'occasion de partir sur ce sujet, l'ouverture du procès à l'encontre de Benjamin Netanyahou pour notamment fait de corruption. Alain Diekhoff.
Bah écoutez, cette élection qui était la quatrième en l'espace de 2 années était rendue nécessaire à partir du moment où, au mois de décembre dernier, le gouvernement en place n'a pas été en mesure d'adopter le budget. Or, il y a une règle qui régit le fonctionnement de la vie parlementaire qui exige que le budget soit adopté avant une certaine date à la fin de l'année civile. Et si ça n'est pas le cas, il y a automatiquement des élections. En effet, cette situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, et donc la perspective électorale, elle était absolument indispensable. Alors sur la question du procès, c'est assez intéressant parce que le procureur général de l'État d'Israël, Avishai Mandelblit, a ouvert une instruction contre le Premier ministre pour 3 affaires liées à des questions d'influence ou de corruption. Et donc le procès a été repoussé pour le moment, mais il va s'ouvrir en effet dans quelques semaines. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, qui est là aussi assez symptomatique dans l'état d'esprit général, c'est que c'est vrai qu'à l'extérieur d'Israël, enfin les commentateurs, je dirais, sont assez attentifs à cette question de procès, qui est aussi suivie en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et on l'a vu dans ces élections, cette question du procès ne pénalise absolument pas politiquement Benjamin Netanyahou. Je dirais même que, quelque part, il s'en sert de façon extrêmement habile pour se présenter comme un martyr, victime d'une chasse aux sorcières de juges non élus, alors que lui bénéficie pour la quatrième fois d'une forte légitimité populaire et donc démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui, auprès de ses partisans, en tous les cas, résonne complètement. C'est pour ça que quand les reporters israéliens demandent aux responsables, enfin à ceux qui vendent les fruits et légumes, par exemple sur un marché très connu à Jérusalem qui s'appelle Machane Yehuda, est-ce que ça va vous faire changer d'avis sur Netanyahou? La réponse unanime, c'est non. Non, c'est notre homme et on votera pour lui, quoi qu'il fasse, et quoi que les juges gauchistes, finalement, fassent contre lui. C'est ça l'argumentaire. Et là, on est vraiment dans une sorte de récupération que, évidemment, Netanyahou n'est pas le seul, hein, à l'échelle du monde à faire, mais qui est assez typique de leaders, disons, de nature un petit peu populiste, c'est-à-dire d'utiliser à leur avantage, finalement, des poursuites judiciaires entamées contre lui, alors que, évidemment, sur le fond, l'attitude qu'il adopte et que ses partisans soutiennent, finalement, est une atteinte contre la séparation des pouvoirs, qui est quand même un élément central dans toute démocratie qui se respecte.
Jean-Paul Chagnolot.
Ben oui, je crois que nous sommes dans un processus assez classique, finalement, parce que au-delà de cette question du rapport au procès, je crois que c'est encore plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il y a dans les différents acteurs de cette scène politique israélienne des gens qui récusent l'idée de la séparation des pouvoirs, qui veulent en fait réduire considérablement les pouvoirs de la Cour suprême. Et on est vraiment effectivement dans un schéma qui emprunte à la logique populiste. Et la logique populiste, c'est l'idée d'un leader qui est en lien direct avec le peuple, sans qu'il y ait le moindre corps intermédiaire. Et parmi ces corps intermédiaires, il y a la justice. On retrouve ça effectivement dans d'autres pays où il y a des logiques populistes. Et on roule, si j'ose dire, vers un terme que j'aime pas trop, mais qui est pourtant le terme qu'on utilise souvent, ce qui est la démocratie libérale. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'état de droit est, au-delà du procès, en fait, quelque chose qui est remis en question. Et fondamentalement, s'il y avait un gouvernement de droite dur, avec les différents acteurs qu'on a les uns et les autres signalés tout à l'heure, on peut effectivement penser qu'on serait dans cette logique-là. Il y a un enjeu très important, par rapport à la Cour suprême, c'est cette fameuse loi sur l'État-nation du peuple juif de juillet 2018, qui est en contradiction claire avec la déclaration d'indépendance d'Israël. Absolument. La déclaration d'Israël pose des problèmes sur l'égalité, et là, nous sommes évidemment dans un système radicalement différent avec la loi sur l'État-nation du peuple juif, qui a introduit une discrimination majeure, absolument fondamentale, et donc la Cour suprême devra un jour ou l'autre, sans doute, être saisie d'une telle contradiction. Or, le plus simple, ce serait d'en réduire les pouvoirs, sans parler évidemment de l'écarter. Or, la Cour suprême, pendant très longtemps en Israël, était une institution extrêmement respectée. Personne ne touchait ou n'envisageait de toucher à la Cour suprême. Donc c'est quelque chose de, je crois, un élément fondamental dans l'évolution aujourd'hui de l'État d'Israël.
Alors, nombreux sont ceux qui, effectivement, je vais vous passer la parole, Dominique Vidal, parce que je sens que vous voulez intervenir. Nombreux sont ceux qui évoquent cette démocratie libérale concernant Israël. Il y a une chose qui est tout de même assez étonnante, c'est que l'abondante littérature qui généralement analyse les dérives populistes dans le monde laisse assez curieusement de côté Israël, où elles sont pourtant patentes. Vous avez une explication, Dominique Vidal ?
Écoutez, on a l'habitude en France d'éviter d'utiliser des adjectifs qu'on utilise pour Bolsonaro, pour Orban, pour Kaczynski et d'autres, ou Trump évidemment. On ne les utilise pas pour Israël, il y a une certaine pudeur là, qui ne me paraît pas compréhensible d'un point de vue intellectuel. Je crois que Alain avait tout à fait raison de dire que la raison de ces quatre scrutins successifs, peut-être y en aura-t-il un cinquième, c'était d'abord pour Netanyahou d'avoir une majorité telle qu'elles lui permettent d'échapper aux procès, qui sont des procès sur des motifs d'accusation extrêmement graves. Mais il y a un autre enjeu, et Jean-Paul a raison là-dessus, c'est la poursuite de la radicalisation que Netanyahou a eu depuis 2015. Je veux dire à la fois la loi État-nation, dont Jean-Paul a parlé, qui est une loi d'apartheid. L'article 1 dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination ». C'est la radicalisation de la politique d'annexion de la Cisjordanie, qui reste quand même l'objectif fondamental, je crois, de Netanyahou. C'est la remise en cause des prérogatives de la Cour suprême. Et puis, c'est l'alliance que passe Netanyahou depuis plusieurs années avec tous les leaders populistes d'Europe centrale et orientale en particulier, même quand ils sont négationnistes ou antisémites. Tout cela, je crois qu'il faut le comprendre, non pas comme une tactique de Netanyahou, mais comme la manifestation de son ADN personnel et politique. Et je veux le dire clairement, on ne peut pas isoler Benjamin Netanyahou de son père Ben-Sion et de son fils Yair. Le père Ben-Sion appartenait dans les années 30 au mouvement le plus extrémiste de la scène de la communauté juive de Palestine. Ça s'appelait les voyous, les birionim. Même Jabotinsky, le leader révisionniste, dénonçait les birionim, notamment parce qu'ils avaient salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Voilà par quel père Netanyahou a été élevé. Et son fils, aujourd'hui, va plus loin, même d'une manière spectaculaire, puisqu'il offre son visage à une affiche du parti néo-nazi allemand AfD, Alternative für Deutschland, qui s'appelle « Pour une Europe indépendante, libre et chrétienne ». Je veux dire que là, on a une dynastie qui évolue dans un sérail politique bien particulier, que Netanyahou a exprimé avec un caractère provocateur étonnant au dernier congrès sioniste en 2015, en disant « Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs ». C'est vraiment une dynastie très particulière. Ni Begin, ni Shamir, ni Sharon n'étaient sur cette ligne-là.
Alors, la question de la Cour pénale internationale, on rappelle qu'elle a décidé d'ouvrir une enquête sur des accusations de crimes de guerre imputées notamment à l'armée israélienne à Gaza en 2014. La CPI a donné un mois à Israël et aux Palestiniens pour demander le report d'une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens à condition de pouvoir prouver qu'ils mènent leur propre enquête. C'est une façon de permettre une sorte d'atterrissage, en tout cas de préparer. Quelle lecture faites-vous les uns et les autres sur cette décision de la Cour pénale internationale, Jean-Paul Chagnulot ?
Je crois que c'est important sur tous les plans, quoi. D'abord, du point de vue de la CPI elle-même, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, elle était très décriée, ne s'occupant pour l'essentiel que de l'Afrique. Donc là, on a eu tout un processus très lent, mais qui a quand même donné un résultat. C'est-à-dire que les Palestiniens ont voulu adhérer au traité de Rome, c'est-à-dire au traité fondateur de la Cour pénale internationale. Et ils ont pu le faire à partir de 2012 parce que ils ont été reconnus comme État non membre des Nations Unies et donc avec une qualification d'État. Et la dernière décision de la CPI, elle était aussi liée à ça. Il fallait qu'on se mette d'accord que la chambre préliminaire de la CPI dise clairement que, effectivement, la Palestine était bien un État membre de la CPI et qu'elle avait un territoire qui était, en fait, celui posé par les résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire, en fait, les lignes de 1967, Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Donc, c'est un État, non pas à part entière, mais en tout cas un État à part entière du point de vue de la CPI. Dès lors, sa requête était tout à fait recevable et donc elle a été effectivement acceptée. Ça veut dire qu'il va y avoir une double enquête maintenant, l'un sur les crimes dont vous parlez, ou les supposés crimes de guerre à Gaza et sur la marche de retour, mais aussi la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation, du point de vue de la Convention de Genève, de la 4e Convention de Genève, peut être considérée comme un crime de guerre. Et donc il y a une spécificité de la CPI qui ne doit être en droit qu'une juridiction de complémentarité. C'est-à-dire qu'on ne mène des enquêtes que si le pays qui est concerné, en l'occurrence Israël, eh bien, s'il n'est pas en mesure de faire lui-même une enquête judiciaire. C'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que les Palestiniens ont posé cet ultimatum. Mais ensuite, ils ont en réserve un deuxième dossier, qui est la colonisation. Et on voit mal aujourd'hui que l'État israélien ouvre une enquête sur la question de colonisation, puisque c'est ça politique fondamentale que la colonisation. C'est même reconnu comme une valeur fondamentale dans la loi de juillet 2018 dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, voilà le schéma. Et donc effectivement, c'est un moment très important parce que du coup, la question de l'impunité et la question de rapport au droit international, eh bien, elle change complètement de nature. Étant entendu que là, c'est l'aspect juridique. Sur le plan politique, il est bien évident qu'il y aura des pressions de toutes parts pour essayer de freiner tout ce qui peut aller sur cette enquête. Un dernier mot à propos de la compétence, juste un mot pour que les choses soient claires. Israël n'est pas membre de la CPI, mais le critère qui permet de saisir la Cour, c'est quand un crime ou un supposé crime a lieu sur le territoire d'un État membre. Par conséquent, comme c'est sur le territoire de la Palestine, eh bien, la Cour est compétente.
Alors, vous parliez des obstacles. Alain Descoffes, je me tourne vers vous. Le président de l'État hébreu était récemment en France et à l'occasion de sa visite officielle à Paris, il a déclaré que la Cour pénale internationale faisait de la politique et pas du droit. Un commentaire ?
Alors bon, je ne me prononcerai pas sur les commentaires de Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, mais sur cette question de la Cour, deux choses. La première, sur la question de la colonisation, c'est évidemment une question cruciale, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est un enjeu majeur au niveau politique, puisque d'un côté, la Cour voudrait qu'il y ait, soit de la part d'Israël, mais comme ça risque de ne pas être le cas, c'est en fait elle-même qui devrait faire cette enquête, statue finalement sur la colonisation et sur finalement la qualification juridique qu'on peut lui donner. Et donc là, c'est un enjeu parce que on sait très bien que, en particulier depuis ces 5 dernières années, le gouvernement israélien avec Benjamin Netanyahu à sa tête tente par tous les moyens de légaliser, si je puis dire, de son point de vue, la colonisation. Et il a même reçu, d'ailleurs, le soutien des États-Unis à l'époque de Donald Trump pour cela, c'est-à-dire de rompre, en fait, avec ce qui était une sorte de consensus international assez large qui considérait que cette colonisation n'était pas légale du point de vue du droit international, pour, au contraire, essayer de la légitimer. Donc, tout de même, d'un point de vue juridique et politique, c'est un enjeu important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que immédiatement, Benjamin Netanyahu s'est emparé de cette question de l'enquête que la CPI a décidé de lancer pour la discréditer et pour dire que c'était en effet une démarche politicienne et qu'il fallait la combattre parce que c'était finalement une tentative de délégitimer quelque part l'État d'Israël. Donc il a cherché un petit peu comme il le fait avec son procès, hein, c'est-à-dire qu'il cherche tout de suite à instrumentaliser politiquement cette question de la CPI, alors que la CPI, je crois, a été extrêmement prudente, hein, puisque d'abord, en effet, elle a vérifié que on pouvait vraiment ouvrir une instruction et ça a déjà pris plusieurs mois pour prendre cette décision. Donc elle ne va pas dans cette direction à l'aveuglette. Donc, mais là, encore une fois, on est dans la politisation pure et simple.
Alors, il nous reste peu de temps. Il y avait des sujets. Je vous passe la parole, Dominique, tout de suite. Juste pour préciser qu'il y avait la question de la relation avec l'Iran que je souhaitais qu'on aborde, mais on n'en a pas le temps. Alors, simplement, Dominique Vidal, et en guise de conclusion, pour rebondir sur ce qu'a dit Alain Diekhoff, avec la politique de Donald Trump, qui était plutôt une politique assez conciliante à l'égard de Benjamin Netanyahu, on peut imaginer une politique plus exigeante de la part de Joe Biden ?
Vous avez en tout cas raison de mentionner le nom de Trump, parce que la toile de fond de cette élection, qui est fragilisé considérablement Netanyahou, c'est le fait qu'il soit orphelin de Trump, qui était son principal allié. Je ne sais pas qui était l'allié de qui, mais en tout cas, c'était capital pour Netanyahou d'avoir ce soutien dans tous les domaines qui était celui de Trump. Il faut dire quand même sur la CPI, je l'ajoute à ce qui a été dit et avec quoi je suis d'accord, qu'il va y avoir une bataille de grande ampleur. On a eu une répétition générale, rappelez-vous, avec l'affaire Goldstone, où à l'ONU, Goldstone avait établi un rapport sur la guerre de Gaza qui finalement a été enterré dans des conditions particulièrement scandaleuses, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est bien triste que ce soit Reuven Rivlin, qui est quand même un homme très respectable, qui a beaucoup travaillé à éviter les dangers que fait peser Netanyahou sur la justice et l'état de droit en Israël. Voilà que c'est lui qui mène cette tournée en Europe pour essayer de rallier les gouvernements occidentaux à sa campagne contre la CPI. Je ne crois pas que cette campagne puisse avoir autant de succès qu'à l'époque de Goldstone, parce que, et je crois que c'est une question qu'il faut poser à Jean-Yves Le Drian et peut-être à Emmanuel Macron. On peut évidemment tenir les discours qui ont été tenus par Paris depuis des mois à propos du Proche-Orient et de Netanyahou en particulier, des rapports avec Israël. Mais à partir du moment où, je fais cette hypothèse, un gouvernement israélien serait composé avec, comme je le disais tout à l'heure, d'un côté les héritiers du fasciste Kahan et de l'autre côté des islamistes, on voit mal qu'on puisse continuer à traiter avec ce gouvernement comme s'il s'agissait d'un gouvernement démocratique normal. Nous n'avons pas, que je sache, avec Orban ou avec Kaczynski ou avec d'autres leaders populistes, des rapports aussi complaisants que ceux que nous avons avec Netanyahou, compte tenu de la radicalisation de sa politique. Donc je pense que la CPI va devenir un des points cruciaux de bataille à l'échelle internationale. Vous mentionniez Biden, disons en deux mots que sur beaucoup de questions, Biden ou Kamala Harris ont pris des positions intéressantes qui méritent d'être étudiées. Sur la CPI, j'observe que pour l'instant, les seules voix qui sont venues de Washington sont des voix, disons, plutôt en soutien à Israël. Il y a là une vraie question parce que, après tout, Israël a signé des conditions très particulières pour devenir membre de l'ONU en 1949. Israël a signé les conventions de Genève et il viole à la fois ces conditions posé pour devenir membre de l'ONU, et les conventions de Genève d'une manière ouverte, y compris la non-vaccination des Palestiniens. Le fait que les Palestiniens ne soient pas vaccinés est une violation ouverte de l'article 27 de la Convention de Genève qui exprime la nécessité pour la puissance occupante de veiller à la santé de la population occupée. Jusqu'à nouvel ordre, les conventions de Genève n'ont pas été abolies et Israël doit s'y plier. C'est la règle internationale.
Alors Jean-Paul Chagnolleau, très très rapidement.
Non, juste un mot sur la CPI. Je crois qu'il faut bien comprendre que tous les pays européens sont membres signataires de la Cour pénale internationale. Par conséquent, ils sont tenus de soutenir la CPI du plan juridique. C'est-à-dire s'il y a un mandat d'arrêt qui est lancé par la CPI, eh bien les États membres doivent soutenir cette position. Ce n'est pas le cas des États-Unis qui ont signé mais n'ont pas ratifié la CPI. Je crois que c'est très important. Donc il y a une obligation juridique. C'est bien sans doute le problème pour Israël.
Un rapport très compliqué des États-Unis avec la CPI, on l'a compris. Merci Jean-Paul Chagnolleau. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, président de l'IREMO et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Israël-Palestine, la défaite du vainqueur aux éditions Actes Sud. Merci aussi à Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, co-directeur avec Bertrand Badi de l'État du Monde, dont le dernier numéro, l'édition 2021, a pour titre Le Moyen-Orient et le Monde, aux éditions La Découverte, et Alain Diekhoff, directeur du CERI et directeur de recherche au CNRS et auteur de Le Conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin. Je signale aussi, pour aller plus loin, deux ouvrages qui viennent de paraître, Israël, une démocratie fragile de Sami Cohen chez Fayard et Les Échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël aux éditions La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.